Nous sommes invités à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, et nous lirons les versets, verset 31 au verset 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen.
C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin avec vous. Et vous vous en douterez, ça c'est le verset par excellence du service. Je dirais presque le verset ou le passage biblique d'Adra. Nous voyons tout naturellement dans le Christ un instructeur, un des plus grands maîtres qui a jamais vécu ou qui vivra jamais. Le Nouveau Testament est rempli de ses enseignements, de ses paroles, de ses sermons, de ses paraboles, de ses histoires. Et d'une manière ou d'une autre, il enseigne dans les pages de tout ce livre. Mais alors même qu'il enseignait, il faisait délibérément quelque chose de plus que cela, quelque chose qui donnait vraiment du poids à son enseignement. Je vous invite à ouvrir les Bibles dans le même livre de Matthieu, un peu plus avant, Matthieu 4. Et nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Jésus vient d'appeler les premiers disciples, l'œuvre commence. Et au chapitre 4 et au verset 23, il dit qu'il parcourait toute la Galilée et Jésus va faire trois choses. D'abord, enseignant dans les synagogues, ensuite prêchant la bonne nouvelle du royaume, et finalement guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. L'enseignement et la prédication, nous les connaissons et nous nous y attendons. Par contre, nous ne sommes peut-être pas prêts à considérer la guérison sous le même angle. Et pourtant, c'est à partir du tout début, dès la première heure, que Jésus commence son ministère de guérison. Comme si la guérison était synonyme d'enseignement et de prédication. La relation est tout du moins évidente entre les trois. En fait, le passage cité continue à parler davantage de guérison que d'enseignement ou de prédication. Le verset 24, Matthieu continue et dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. » Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il les guérissait, le verset 24. Vient maintenant au chapitre 5, le magistral sermon sur la montagne, qui compte 6 pages et demie. Et pour l'enseigner convenablement, il nous faudrait éventuellement 6 ans et demi. Verset 1er du chapitre 5, « Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire. » Jésus va faire l'enseignement. Chapitre 5, chapitre 6, on ne va pas le voir, vous le connaissez, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Plusieurs paraboles, enseignements. Mais au verset 28 du chapitre 7, lorsqu'il eut achevé ce discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Jamais la terre avait vu de tel maître, de tel prédicateur. Chapitre 8, verset 1, « Lorsqu'il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. » Et tout de suite, ça commence de nouveau le ministère de la guérison de Jésus. Le voilà qui guérit de nouveau. Il va guérir successivement, et en lisant seulement les titres des prochains chapitres, il va guérir successivement un lépreux, le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre, puis un groupe décrit simplement comme plusieurs démoniaques, Matthieu 8, 16. En résumé, dit le texte, il guérissait tous les malades, verset 16. Il est obligé de traverser la mer de la Galilée à cause de la foule qui se presse maintenant autour de lui. Et de l'autre côté du lac, il va chasser les démons de deux personnes qui vivent dans les sépulcres des Gadaréniens. Il remonte ensuite dans la barque pour retourner dans sa ville, Matthieu 9, verset 1, où il va guérir un homme cloué au lit par la paralysie et une femme qui souffre depuis 12 ans d'une perte de sang. Il va ressusciter ensuite la fille de Jaïrus. Ensuite, il rend la vue à deux aveugles. Après quoi il chasse un démon qui avait rendu un homme muet. Et voilà le bref résumé des 6 premiers chapitres du ministère de Jésus dans ce Nouveau Testament. Et voyez le verset suivant qui éveille en vous un écho, Matthieu 9 au verset 35. C'est comme s'il fermait un cycle entre 4:23 et 9:35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà l'exemple que Jésus nous laisse pour nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à prêcher, à enseigner et à guérir aussi. Parlons brièvement sur la première partie, sur la prédication, prêcher. Les adventistes du septième jour peuvent être vraiment considérés comme une grande famille de chrétiens à l'échelle mondiale. Pratiquement, tous les pays du monde ont une présence adventiste. Chaque année, des millions d'euros sont utilisés pour prêcher, pour proclamer le prochain retour de Jésus. Et que cela soit à travers la télévision, Hope Channel, la radio, Radio Mondiale Adventiste, Radio Locale, mais aussi à travers des conférences, littérature, Internet et tout autre moyen. Plus de 18 millions de membres baptisés montrent que l'Église Adventiste tient à cœur la mission de prêcher l'Évangile éternel partout. Même si nous pionniers ont mis un peu de temps à réaliser qu'aller partout ne voulait pas simplement aller partout aux États-Unis, mais partout dans le monde, aujourd'hui l'Église est devenue vraiment une Église mondiale. Deuxième volet, enseigner. Là aussi, l'Église a compris l'importance d'éduquer pour l'éternité. J'aime bien ce leitmotiv de l'éducation adventiste. Éduquer pour l'éternité. Le système d'éducation de l'Église adventiste du septième jour est le système d'éducation chrétienne le plus important dans le monde après celui de l'Église catholique, avec plus de 1 500 000 étudiants, 80 000 enseignants, environ 120 centres universitaires, 7 600 écoles secondaires et primaires opérant dans plus de 150 pays qui sont dûment accrédités par les autorités des pays concernés. Ce système holistique d'éducation prit cours au démarrage dans les années 1870. Et nous avons toujours tenu à cœur de développer les capacités mentales, physiques, sociales et spirituelles. L'importance de la croissance intellectuelle, le service envers l'autre sont les valeurs principales des aspects essentiels de la philosophie adventiste de l'éducation. Mais éduquer n'est pas seulement le système d'éducation formelle. Nous avons la chance d'être une des seules deux ou trois églises en France qui avons une école d'église, une école à côté de chez nous. Est-ce que cela veut dire que l'Église n'a pas rempli sa mission d'enseigner? Pas du tout. Regardez le système d'enseignement unique que chaque sabbat nous avons partout dans le monde et ici aussi inclus. Ça s'appelle l'école du sabbat. Et nous avons le système d'école du sabbat non seulement pour les adultes, pour les plus grands, à travers les classes, l'étude, l'éducation, l'étude de la Bible, mais l'importance particulière que depuis le début, l'Église adventiste a su donner aux jeunes, aux plus petits, et adapter l'enseignement en fonction des classes d'âge. Et c'est pour ça que nous avons des classes des premiers pas, 0-2 ans, je découvre la Bible, 3-6 ans, en route pour le ciel, 7-9 ans, mise au point, 10-12 ans, suivre mon sauveur, SMS, 13-14 ans, connecte-toi, 15-18 ans, jeune adulte, 18-30 ans. Combien d'églises connaissez-vous qui font tant d'efforts pour enseigner la Bible à tous ses enfants, même aux plus petits? Et je crois que d'une certaine façon, nous pouvons être fiers que là aussi, l'Église adventiste remplit son mandat d'enseigner. N'oublions pas que l'enseignement commence où? Dans le foyer. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'école, mais c'est le foyer. Vient ensuite le troisième volet, guérir, servir. Et là aussi, le système médical de l'Église adventiste est un des plus importants du christianisme. À travers le monde, il comprend plus de 170 hôpitaux, sanatoriums, environ 430 cliniques et dispensaires, plus de 160 orphelinats, maisons de retraite, écoles d'infirmiers, auxquelles il faut ajouter 23 fabriques de produits végétariens et diététiques. Et les adventistes ont fait de nombreuses contributions dans le domaine de la santé holistique, de l'hygiénisme, de la prévention, de la médecine, de la nutrition, de la lutte contre l'alcoolisme, la lutte contre le tabagisme. Nous pourrions dire que notre Église remplit le mandat du Christ lui aussi, mais que fais-je pour remplir la mission du Christ? Même si les adventistes ont le plus haut ou le plus élevé pourcentage de membres qui ont des professions liées à la santé, soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des kinés, etc., je suis sûr que la plupart d'entre nous ne sommes pas vraiment dans le médical. C'est intéressant de voir que le mot « guérir », comme il est dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il disait que Jésus guérissait, en grec, ça s'écrit « thérapeo ». Je ne suis pas du tout spécialiste en grec, mais j'ai dû faire quelques recherches et j'étais étonné de voir que ce mot a deux significations. La première veut dire guérir, soigner, apporter un remède, restaurer la santé. Et c'est là sans doute le sens que dans la plupart des fois dans la Bible, le Nouveau Testament, quand est traduit, thérapéo est traduit comme guérir. Mais thérapéo signifie aussi servir, assurer un service. Par exemple, dans son discours à Athènes, Paul, faisant référence à Dieu, il va dire, acte 17, 25, il va dire, il n'est point servi, en faisant référence à Dieu, il n'est point servi, il n'est point thérapéo par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc on comprend que le mot thérapéo veut dire d'une part guérir, d'autre part servir. Voici le troisième aspect de la mission du chrétien. Non seulement nous sommes appelés à prêcher, à proclamer, nous sommes aussi appelés à éduquer, mais nous sommes appelés aussi à servir notre prochain. Et là, nul besoin d'être médecin ou infirmier ou avoir un diplôme universitaire pour le faire. Nous sommes tous appelés au service. Jésus nous a appris cela. Il a vécu un ministère de service envers les plus démunis, envers les pauvres. Ellen White nous dit que pendant son ministère, Jésus a passé davantage de temps à guérir les malades, c'est-à-dire à servir, thérapéo, qu'à prêcher. Il a mené son ministère de cette façon parce que c'était ce que Dieu demandait ou avait toujours dit ce qu'il voulait de son peuple. Proverbe 19, je vous invite à aller un peu dans l'Ancien Testament, et le prochain trimestre, nous passerons 3 mois à étudier exactement le livre des Proverbes. Et au chapitre 19, verset 17, Dieu nous promet que donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, et il le récompensera cette générosité. Un peu plus loin, chapitre 22, toujours de Proverbes, chapitre 22, au verset 9, il dit « L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. » Et psaume 41, le verset 1 jusqu'au verset 3, est vraiment explicite en promettant « Heureux celui qui se soucie du pauvre ». S'il est dans le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Voilà. Être attentif aux pauvres et aux opprimés était au cœur de ce que Dieu avait toujours demandé de son peuple, même dans l'Ancien Testament. Et en fait, c'était tellement attendu par Dieu qu'il a condamné ceux qui ne l'ont pas fait. Quand nous pensons à Sodome et Gomorre, Nous pensons que ces habitants ont été détruits à cause du péché de l'homosexualité. Et cela faisait partie de leur méchanceté. Mais le prophète Ézéchiel l'a dit, et je vous invite à ouvrir Ézéchiel chapitre 16, le verset 49, où il nous dit, en parlant de Sodome, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent, ce qui a provoqué aussi sa destruction. » Les justes sont appelés à utiliser leurs ressources, leurs bénédictions, pour être une bénédiction. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu 25, 31, 46, on ne va pas le relire, mais au moment du jugement, Dieu va séparer les justes des méchants en fonction de quoi ? De leur attitude envers les plus démunis. Ce ne sont pas tellement les mauvaises actions qui vont séparer les bons des mauvais, des méchants. Ce n'est pas les mauvaises actions qui provoquent la censure la plus sévère de la part de Dieu, mais le fait qu'ils avaient l'opportunité de faire le bien et qu'ils ne l'ont pas fait. C'est ce que nous appelons le péché de l'omission, que dans ce cas est considéré plus grave que le péché de commission. Tout comme la porte est fermée sur les vierges folles pour leur négligence, ainsi ceux qui sont sur la gauche sont perdus pour avoir omis de remarquer les nombreuses occasions qui leur avaient été données de montrer de la bonté envers leurs prochains. Len White nous dit aussi que la vraie charité consiste à aider les hommes et les femmes à céder soi-même. Si quelqu'un vous demande la nourriture, vous ne devez pas vous détourner de cette personne. Mais la vraie philanthropie signifie plus que de simples dons. Cela signifie un véritable intérêt pour le bien-être des autres. Nous devons essayer de comprendre les besoins et l'environnement des plus pauvres et ceux en détresse et leur donner l'aide qui leur sera le plus bénéfique. Donner du temps. Comprenez bien ça, donner du temps et de l'effort personnel coûte beaucoup plus que simplement donner de l'argent, mais c'est la vraie charité. Dieu nous bénit pour que nous puissions aussi être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et nous avons tous quelque chose à partager. Ce matin, nous avons étudié exactement sur les riches. Malheur, hurler. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons partager avec les autres. Désirez-vous une véritable vitalité dans votre parcours spirituel avec Dieu? Peut-être qu'il est temps d'agir, de faire du temps, de donner du temps pour les prochains. Servir les autres comme le Christ faisait, peut allumer une étincelle dans votre vie spirituelle. Jacques, nous avons étudié il y a quelques semaines, chapitre 2, 20, déclare « La foi sans les actes ne sert à rien. » Pour avoir une foi vibrante avec le Seigneur, il faut plus que croire, il faut des actions. Quelqu'un disait « Tes actions parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Les justes sont surpris par l'importance de leurs actions. Dans la parabole que nous avons vue de Matthieu 25, ni les moutons, ni les chèvres, ou les boucs, ne sont pas surpris par l'endroit où ils sont. Ce n'est pas ça le sujet de leur surprise. Ils sont surpris par la raison que le roi donne d'être là-bas. Et le point d'explication se trouve au verset 40. « Toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous savons que Dieu est omnipotent, omnipuissant. Il a toute la puissance dans ce monde. Il a la puissance absolue. Dieu est omnipotent. Il est aussi omniprésent. Il est partout dans le monde en même temps. Sa présence remplit la terre. Nous avons aussi appris que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. J'aimerais ajouter que Dieu est aussi omnipathos. Le mot grec pathos veut dire ce qu'on ressent, sentiment, passion, disposition. Il y a au moins deux mots que nous connaissons en français qui viennent du grec pathos, le mot l'empathie et sympathie. L'empathie est la capacité de comprendre précisément les sentiments d'autrui. La sympathie suppose un partage de sentiments et l'établissement de liens affectifs. Or, Dieu est omnipathos, c'est-à-dire que Dieu sent et ressent toutes les joies, toutes les peines, toutes les souffrances de tous les hommes, de tous les êtres dans ce monde. Dieu souffre quand nous souffrons. Dieu se réjouit comme nous sommes contents. Combien d'entre vous seriez volontaire, je vous demanderai si les volontaires puissent lever le bras, combien d'entre vous seriez volontaire, rien que pendant 24 heures, une journée, de ressentir tout ce que nous, ici, qui sommes dans cette salle, ressentons. Je ne vois pas beaucoup de bras levés. En effet, je ne vois aucun. Imaginez ce que serait de ressentir la souffrance de tous les frères qui sont ici. Sommes-nous si malheureux que nous ne voulons pas prendre la souffrance des autres, des uns des autres? Imaginez maintenant la souffrance de Dieu, qui ressent non seulement la souffrance de nous tous qui sommes ici, mais de tout l'univers, de tout le monde, de tous les êtres vivants. Or, Dieu ressent la souffrance de tout le monde. Seul Dieu peut ressentir cela. Donc, si nous allégeons la souffrance d'une personne, nous sommes en train d'alléger la souffrance de qui ? De Dieu lui-même. En faisant les autres heureux, en leur faisant du bien, en leur donnant à manger, en leur donnant à boire, en leur donnant un vêtement, en leur rendant visite, nous sommes en train de proportionner la joie à notre prochain et par là aussi la joie à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, toutes les fois que vous avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi qui vous l'avez fait. Jésus s'intéresse ici à la justice de la personne entière, une justice du cœur. Les vrais disciples vont aimer et servir les plus petits frères avec de la compassion. Et ce faisant, ils servent inconsciemment le Christ. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous sommes sauvés par les actes, par les actions. Pas du tout. Tite 3.5 dit que Jésus nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le baptême de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Et Éphésiens 2, 8 et 9 dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » D'ailleurs, en Matthieu 25, la surprise des justes à cette déclaration, quand il leur dit « Quand est-ce que nous avons fait ça ?» on ne s'est même pas rendu compte, rend impossible de penser que les œuvres de justice puissent servir à gagner le salut. La façon comment ils ont traité les moins de ces petits n'avait pas pour objectif d'être accepté ou rejeté par le roi. Les brebis n'ont pas montré de l'amour pour gagner le ciel. Rappelons-nous que les œuvres de justice sont le fruit de notre salut, jamais l'origine de notre salut. Les bonnes œuvres ne font pas de vous un bon chrétien, mais si vous êtes un bon chrétien, vous produirez les œuvres de la foi. Mais revenons un peu au service. C'est dans cette troisième dimension que Dieu nous appelle à servir notre prochain. Et depuis le début, l'Église adventiste a là aussi œuvré pour les plus démunis. Chaque église, dans le temps, avait sa société de Dorcas, qui ensuite est devenue le Secours Adventiste et récemment ADRA. Et en 1956, la Conférence Générale va créer l'association, qu'aujourd'hui est connue comme ADRA. Elle a changé le nom en 1984, il y a précisément 30 ans. Aujourd'hui, cette ONG est présente dans plus de 120 pays dans le monde. Et l'année passée, elle a aidé plus de 30 millions de personnes. En France, en 2013, ADRA a distribué plus de 140 tonnes d'aliments à travers ses presque 50 antennes locales. Elle a distribué 8000 repas aux sans-abri, aux migrants, aux SDF, et a distribué 11075 colis alimentaires à 5560 personnes. Et ces chiffres sont une réalité grâce aux plus de 700 bénévoles que chaque semaine se dévouent pour leurs prochains en France, qui servent les nécessiteux à travers ADRA. Et je suis content de vous dire qu'un petit rapport de la semaine passée, grâce à votre... Alors, ce n'est pas presque 70, mais c'est plus que 70 personnes, plus précisément 71 personnes, entre enfants, jeunes et moins jeunes. Et nous avons pu récolter 2884 kilos de nourriture que nous avons donné à la banque alimentaire. Or, je ne dis pas qu'ADRA soit la seule organisation dans laquelle chacun d'entre vous pourra s'investir. Il y en a d'autres qui font un travail tout aussi remarquable, même ici autour d'entre nous. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il est important que chacun d'entre vous s'implique dans une attitude de service envers le prochain. Et même pas besoin d'être dans une association pour le faire. Nous devrions tous le faire. Ça devrait être partie de notre nature. Si c'est ADRA, tant mieux, mais si c'est avec une autre association, pas de problème. Mais que personne ne reste oisif. Dieu nous appelle au service. Et comme Paul le rappelait aux anciens de l'église d'Éphèse, les paroles de Jésus, qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner, parce qu'en donnant, nous recevons. Comme conclusion, j'aimerais vous montrer quelques images qui vont s'afficher devant vous. Une nuit, une femme a rêvé qu'elle avait une conversation avec Dieu et elle était en colère à propos de toute la souffrance et le mal qu'elle voyait autour d'elle. Et elle se plaint au Seigneur et dit, « Dieu, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose à ce sujet ?» Dieu lui répondit avec douceur, « J'ai fait, je t'ai créé. » L'église que vous voyez, c'est l'église du souvenir de l'empereur Guillaume en allemand. Alors, je vais demander excuse aux Allemands parce que je vais assassiner. C'est l'église Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Alors, elle est connue en français comme l'église du souvenir. Elle est située à Berlin, dans une des plus grandes places de la capitale allemande. Cette église a été construite en 1891 et 1895. Elle a été consacrée au premier empereur de l'Allemagne, Guillaume Ier, l'église du souvenir de l'empereur Guillaume Ier. Et suivante, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été conservée, une partie, en souvenir des destructions dues au conflit. On peut voir aujourd'hui les ruines de l'ancien bâtiment qui sont gardées comme rappel des horreurs de la guerre. À côté, il y a une autre, vous voyez derrière, une église plus moderne. Mais j'ai eu l'opportunité de visiter cette église et c'est impressionnant parce qu'on sent comme si l'église venait d'être détruite, elle est restée telle qu'elle. À l'intérieur de cette église, il y a une statue du Christ qui porte encore les marques de la destruction. Il lui manque le bras droit. J'aime cette image, j'aime cette statue. Elle a été conservée dans son état après la guerre. Et j'aime penser que les responsables de cette église ont voulu nous donner une leçon. Nous sommes les bras de Jésus sur cette terre. Nous sommes les mains, nous sommes les pieds. Et c'est ce que Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, ce matin, à le faire. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus pour alléger la souffrance dans ce monde. La prochaine photo, la voilà, sous un autre angle. Puissions-nous suivre son exemple et être des instruments au service du Maître, être les mains qui donnent à manger, qui donne à boire, qui donne un vêtement, être les mains ou être les pieds qui visitent les prisonniers, ceux qui souffrent, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la souffrance. C'est mon désir pour chacun d'entre vous ce matin. Amen.